BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, on est de retour pour la seconde partie de l'émission. Il est 10h passé de 1 minute toujours avec Mathieu Jolivet, journaliste BFM Business, Olivier Redoulès, directeur des études de Rexecode, et Victor Lequi-Laurier, économiste et vice-président du think tank BSI Economics. On parle travail, on parle rémunération, pouvoir d'achat ce matin dans les experts. On va continuer avec l'allocation sociale unique, une allocation sociale unique peut-être déjà mort-née. Selon la Tribune dimanche, Matignon a fait retirer le projet de loi sur l'ASU, comme on l'appelle, du Conseil du jour du Conseil d'État. Je rappelle que le texte vise à fusionner le RSA, l'allocation logement et la prime d'activité sous un seul régime. Mais un régime qui se heurte à des difficultés de mise en œuvre pratique, c'est un véritable serpent de mer, hein, cette allocation sociale unique. On en parle depuis quasiment 10 ans, 2017.
Le rapport Sirugue en parlait déjà, de Sirugue,
donc avant,
dans son rapport 2016.
Avant 2017, oui, avant l'élection d'Emmanuel Macron. Pourquoi c'est si compliqué, Mathieu? Expliquez-nous.
Je pense que tout le monde le voit. C'est le fusion. En fait, ça ressemble à une montagne qui a l'air difficile à franchir quand même. Hein. On a énormément de dispositifs qui ne sont absolument pas les mêmes, qui n'ont pas la même philosophie, qui sont pas calibrés de la même manière, qui sont alloués selon des critères qui sont totalement différents. Donc ce que je veux dire, c'est que fusionner pour avoir un guichet unique, facile et lisible pour tous, on est tous d'accord, c'est facile à dire, mais c'est hyper difficile à faire. La prime d'activité, si vous regardez, c'est fait pour des gens qui travaillent. Le RSA, c'est fait pour des gens qui ne travaille pas. Donc comment vous faites pour marier les deux? C'est un vieux serpent de mer. Après, on voit bien que effectivement, en termes de lisibilité, tout le monde en veut et c'est difficile de le contrer. Il y a une utilité aussi qui revient souvent en avant, c'est que je crois que le taux, vu la complexité des dispositifs actuels, si vous regardez le RSA, le taux de non-recours, je crois que c'est un tiers des bénéficiaires.
Et d'environ 30%.
Vous avez à peu près un tiers des bénéficiaires du RSA qui n'en bénéficient pas parce que c'est trop compliqué. Voilà.
Ils font pas les démarches.
Exactement. Et après, sur le plan technique, c'est une usine à gaz. Après, c'est vrai qu'on a quand même des technos qui sont bien outillés, on peut se dire qu'ils seraient capables de s'attaquer à cette usine à gaz. On sait fabriquer ces technos-là. Après, sur le plan politique, qu'est-ce qu'on a envie pendant cette campagne présidentielle aussi de s'y attaquer, de relancer, parce que finalement derrière, c'est relancer le débat sur l'assistanat qui coûte plus cher que le travail. Voilà. Donc, est-ce qu'on a envie, qui veut être le premier à lancer ce débat-là?
Victor.
Je crois qu'il y a aussi un point très important, en tout cas comme ça a été formulé par les LR qui sont un peu porteurs de ce projet,
oui.
C'est qu'ils veulent plafonner, en fait, est-ce que cette nouvelle aide qui se substitue aux trois autres soit plafonnée à 70% du SMIC.
L'idée, c'est qu'on sépare bien que le fait de retourner au travail, ça rapporte vraiment beaucoup plus que l'inactivité.
Mais, et je pense que c'est pour ça que c'est un sujet qui va être un peu mis sous le tapis, c'est parce que je pense que c'est beaucoup trop polémique et qu'en plus on a quand même pas mal d'incertitudes sur l'efficacité de la mesure. L'efficacité, alors on sait que ça va permettre d'augmenter le taux d'emploi parce que ça va être un peu incitatif pour retrouver du coup un emploi plutôt que d'être avec des minima sociaux, même si c'est notamment le chiffre de l'OFCE qui démontre que quand on vit avec des minima sociaux, généralement on vit en 40% en dessous du niveau du revenu médian. Donc ça permet quand même pas d'être un niveau de vie très élevé. Donc on sait que ça va permettre que le taux d'emploi augmente, ça c'est plutôt favorable. Comme Mathieu Jolivet le précisait, effectivement, tout le monde est séduit par l'idée d'avoir un guichet unique, et ça, c'est très très bien.
Ça simplifie, quoi. C'est très présenté comme une mesure sociale à un moment. Hein.
Mais il y a le bas qui blesse, c'est sur notamment les incertitudes sur ce que ça peut générer en termes de pauvreté supplémentaire. Certes, effectivement, ça va être plus ciblé, donc peut-être que des personnes...
Alors, comment on peut avoir... Parce que moi, c'était qu'on avait quand même près de 3,8 millions de foyers gagnants et que ça ferait baisser le taux de pauvreté monétaire de 0,5 points.
Le Monde s'est procuré une étude d'impact qui a l'air de dire qu'il y aurait aussi 4 millions de perdants. Il y aurait 4 millions de...
Il y a des perdants,
nécessairement. 4 millions de personnes qui font partie des plus défavorisés qui perdraient une cinquantaine d'euros par mois. Donc,
dont 1,35 million parmi les 20% de ménages les plus pauvres. Mais comment on fait des perdants dans une telle réforme, Olivier? Mais
en fait, on a une enveloppe constante. Donc, si vous faites des gagnants, vous faites forcément des perdants. Et la question, en fait, c'est de faire une sorte de judo où on prend aux poches peut-être les moins efficaces, qui sont les moins encourageantes pour l'activité, pour donner aux autres et pour créer de l'incitation. Et donc, de fait, en fait, du fait qu'on ait une enveloppe constante, toute réforme, sauf si elle change rien du tout, va faire des gagnants et des perdants. Et le problème, c'est toujours un peu pareil dans les réformes. On a vu ça au moment des APL, au moment de la bascule CSG cotisation 2018 ou autre. C'est que on a une forme d'incapacité à gérer les perdants, à dire qu'au fond, globalement, ça va être mieux pour tout le monde et c'est pas très grave s'il y a des pertes. En fait, on ne sait pas faire ce que Trump sait faire aux États-Unis, où il dit, bon, on va faire des droits de douane, ça va augmenter les prix, c'est pas très grave, mais c'est pour...
C'est un peu la même chose avec les accords commerciaux internationaux de libre-échange.
On sait pas gérer ça. C'est peut-être lié au fait qu'on a une telle intervention publique dans l'économie que de toute façon, les gens, ils s'y retrouvent plus. Il faut bien voir que une fois les prélèvements pris sur les salaires, etc., les gens ont assez peu de marge pour se retourner. Donc, ça veut pas dire qu'il n'y ait pas d'épargne, mais l'épargne est surtout soit chez les très, très aisés, soit chez les retraités. Mais le travailleur moyen, il a relativement peu d'épargne. Et donc, si on lui prend quelque chose, ben, il va le sentir à la fin du mois. C'est aussi ça, la leçon des gilets jaunes, etc. C'est que les gens, en fait, avaient du mal à se retourner dès qu'on changeait un petit peu les paramètres du système. Après, ce qu'il faut bien comprendre sur le diagnostic, quand même, c'est que les effets de, comment dire, ou passer du travail au non-travail seraient des incitatifs, ou en tout cas feraient perdre. Ça a été quand même largement réglé sur le passé.
Maintenant,
c'est-à-dire en fait que justement la prime d'activité a permis d'assurer que quand on travaille plus, on gagne plus de manière générale. Enfin, pardon, quand on passe du non-travail au travail,
on gagne plus. Vraiment plus grâce à la prime d'activité.
Le sujet, c'est quand on travaille un peu plus ou quand on fait des gains de productivité. C'est là où en fait des fois, c'est très compliqué. Par exemple, quand on augmente le nombre d'heures par mois en temps partiel, là, on n'est pas toujours gagnant, mais il y a parfois certaines situations où justement la combinaison de toutes ces aides fait qu'on perd au passage.
Ah oui.
Et donc c'est pas vraiment du non-travail au travail, mais c'est plutôt du travailler plus au travailler plus, au travailler mieux, que ce système-là devient un frein. Et puis après, bon, il y a la question qu'on augmente les salaires, les résultats du rapport Bozio-Wassmer, c'est le fait que quand on augmente, qu'on s'éloigne un petit peu du SMIC, ben une grosse partie quand même prend soit en prélèvement supplémentaire, soit en moindres aides. Et en fait, le point central, c'est qu'on a voulu augmenter le niveau de vie des personnes sans emploi, c'est-à-dire c'est tout à l'honneur de la France, c'est de réduire le niveau de pauvreté. Mais par contre, le salaire médian, par exemple, lui, il est fixé par le marché.
Oui.
Parce qu'en fait, il reflète la production économique médian de l'économie. Et donc, en fait, on a réduit ce corridor.
On a tassé, bah oui, alors, hein, et d'où le sentiment de déclassement de beaucoup de Français dont le salaire
pendant un certain
se
temps,
fait rattraper
en fait,
par le salaire minimum.
Non, on a voulu inciter au maximum au retour à l'emploi, mais on se rend compte que l'effet pervers, c'est qu'une fois qu'on est en emploi, mais travailler plus, ça ne rapporte pas beaucoup. Et c'est ça le sujet, au fond.
Ouais, sur le plan budgétaire, je crois que les aides et minima sociaux dans un budget, c'est à peu près 30 milliards. C'est énorme, mais si on prend tous les dispositifs d'aide...
La prime d'activité, c'est 12 milliards.
On est autour de 90 milliards si on prend tous les dispositifs d'aide. Donc là, en fait, c'est sur le plan budgétaire et sur le plan politique, on parle là du pognon de dingue qu'évoquait
Emmanuel Macron il y a quelques années.
Voilà. Et si on revient sur l'idée de cette allocation sociale unique, on voit bien que cette étude d'impact que s'est procuré le Monde, le signal que ça renvoie quand même entre les gagnants et les perdants pour arriver à une somme nulle, c'est que on prend à des gens qui gagnent un peu pour donner aux gens qui gagnent pas du tout.
Ouais.
Et ça, c'est quand même assez dévastateur comme signal.
Donc, ça veut dire que si on veut réformer, il va falloir payer, quoi. Dans le Kilorier, c'est souvent ce qu'on dit, hein.
Alors, je pense qu'il va falloir payer, mais pour faire des dépenses peut-être plus efficaces, que je pense que ce que n'adresse pas, en fait, cette solution, c'est tout le problème, notamment, du logement. Enfin, moi, j'ai pas l'impression, en fait, qu'en changeant, en fait, ce système-là, on remet, par exemple, pour moi, il y a vraiment un sujet, notamment sur les appels, sur la location, en fait, entre les différents
récipiendaires. Le monde du logement est plutôt contre. La Caisse nationale des allocations familiales s'est réunie le 9 avril. Ils sont contre. Mmh. Et le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion prônent aussi plutôt l'abstention.
Parce que ça répond pas, justement, à toutes ces problématiques-là, alors qu'en principe, les appels, eux, c'est spécifique. Après, c'est mal calibré. Il faudrait vraiment faire une refonte complète du système. Et quand on se réfère à l'expérience qui a été menée, notamment au Royaume-Uni, il y a maintenant 10 ans, qui a été plus ou moins similaire, hein, de vouloir tout unifier.
Ah oui.
Les coûts que ça devait représenter, parce que c'est aussi ce qui est mis en avant, c'est que le coût, en fait, de tout mettre sous une forme de guichet unique va permettre des économies d'échelle. Au Royaume-Uni, ça s'est pas avéré. Je crois qu'ils ont dépassé de 45% l'enveloppe et que le temps de mise en place,
pas une paille,
ça a été 3 fois plus long que ce qu'ils avaient espéré. Et là où ça a été mené avec plus d'efficacité, c'était un petit peu moins ambitieux. Et je pense que sur la réforme en tant que telle, de vouloir faire, moi je suis très favorable à quelque chose qui fasse une pierre 2 coups. Mais là, il y a peut-être une pierre 2 coups, 3 coups, 4 coups avec ce type de réforme. Et j'ai du mal à imaginer qu'on arrivera à remplir tous les objectifs. Et la question du logement, pour moi, elle est beaucoup plus centrale et ça n'y répond complètement pas.
Olivier, ce que nous dit la Victor, c'est que on poursuit trop d'objectifs qui ne fonctionneront pas. Bref, que ça n'est pas efficace, cette allocation sociale unique.
Non, mais surtout sur le logement, on a un vrai sujet d'offre. Et là, en fait, alors vu effectivement des bailleurs sociaux ou autres, ils seront sans doute, ils seront perdants de l'affaire. Mais perdant, mais aussi c'est le logement en entier qui va perdre, parce que de fait, si on réduit la rentabilité économique des logements construits, ben à un moment donné, ça va encore accroître le déficit d'investissement qu'on a là-dedans. Donc c'est le vrai sujet sur le logement, c'est qu'on appuie un peu quand même sur le frein et l'accélérateur en même temps, parce que d'un côté, on veut soutenir la demande en faisant du stop and go, et de l'autre, on ajoute des normes, on ajoute des contraintes, en fait, on fait des chocs d'offres négatifs, et ça, c'est un peu un non-sens, en fait. C'est le logement, il est un peu au cœur des contradictions des politiques publiques.
Oui. Mathieu. Pour ou contre cette allocation sociale unique, c'est un peu ça le sujet. C'est, est-ce que c'est efficace, quoi? On se dit finalement, c'est très porté politiquement
Je pense qu'on est,
l'écart n'est trop court, mais qu'on tape à côté.
On est sur un vieux serpent de mer, et je pense qu'il y a quand même une urgence à simplifier le système, et que oui, il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière. Clairement.
Bon. Ben, ce sera le mot de la fin pour ce débat. On va passer à l'IA maintenant, les amis, avec cette idée qui, moi, je trouve, au gré de mes rencontres et ce que je peux lire aussi dans la presse, une montée de l'angoisse sur le marché de l'emploi, mais y compris à assez haut niveau. Alors, est-ce qu'on se dirige vers une job apocalypse? Il y avait une interview croisée de Philippe Aguillon, notre prix Nobel d'économie, qui défend l'innovation, lui, évidemment, et les bienfaits pour la productivité de l'intelligence artificielle, et de Roni Chatterjee, que je ne connaissais pas, qui est le chef économiste d'OpenAI. C'était dans les échos en fin de semaine, sous la plume de notre camarade Guillaume de Calignon. Ils disent tous les deux qu'on ne voit pas encore les effets négatifs de l'IA sur l'emploi que beaucoup annoncent. Est-ce que vous êtes d'accord? Allez, Olivier, je commence avec vous. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec eux?
Moi, j'ai un gros étonnement sur cette inquiétude sur l'IA. On se plaint régulièrement, on dit on manque de levier de croissance. Un des gros sujets, on n'arrive pas à augmenter les salaires, c'est qu'on n'a pas de gains de productivité. Justement, l'IA peut nous apporter d'énormes gains de productivité. Je pense qu'on a tendance à regarder le verre à moitié vide et à oublier la bouteille pleine à côté. En fait, il y a deux études que je vais me permettre de citer, oui, qui vont dans ce sens. Au niveau macro, la Commission européenne, alors dans le gros package de ses prévisions, elle a fait quelques pages d'une étude basée sur une enquête sur les gains de l'IA. En fait, c'est basé sur un sondage auprès de tous les consommateurs européens. Et en fait, ce qui s'en déduit, c'est que les gens qui ont répondu, les Européens en moyenne, estiment qu'ils vont gagner à peu près 7 heures de travail par mois grâce à l'IA. Donc ça fait un gain de productivité qui est conséquent et qui se traduirait au niveau macroéconomique par 1,5 point de PIB en plus, de productivité en plus. Donc, du coup, en fait, ça nous aiderait bien, en fait, si ça se réalisait. Et à l'autre opposé, là, je vais regarder un angle un peu plus micro. Oui. Fexeco des BPI France publie régulièrement un baromètre auprès des entreprises, et lors du dernier baromètre publié la semaine dernière, donc c'est à peu près un gros millier de TPE-PME qu'on interroge régulièrement, on leur a posé la question de l'IA. Et en fait, ce qui ressortait, c'est qu'une très grande majorité d'entre eux déjà l'utilisent régulièrement, une fois par semaine.
On est en train d'entrer dans cette période. Hein. C'est vrai que ça fait 3 ans à peu près que ChatGPT a débarqué dans nos vies, mais dans l'entreprise, on a l'impression que c'est vraiment maintenant que le sujet éclate.
Ce qui est intéressant, c'est que ces TPE-PME, une majorité d'entre elles, une large majorité, prévoit des gains substantiels sur la productivité, sur la rentabilité, sur le chiffre d'affaires d'ici 2030.
C'est vrai qu'elle était plutôt optimiste, cette étude.
Et en fait, il y a assez peu d'effets négatifs sur l'emploi. Je pense que le sujet de l'emploi, il est certes important, il va y avoir des transformations, mais la vraie inquiétude, c'est de rater la révolution de l'IA, parce que là, en fait, si on ne fait pas les gains de productivité qui sont faits ailleurs, qui sont faits aux États-Unis ou en Chine, en fait, le sentiment de déclassement européen, ce ne sera pas qu'un sentiment.
Bon, on voit quand même, Victor, les plans sociaux se multiplier, hein, sous couvert d'IA. On a eu JP Morgan il y a quelques jours, 7 ou 8 000 postes. Oracle, c'est 30 000 suppressions de postes. HP, il y en a eu des milliers aussi. Comment voyez les choses, vous ?
Alors, c'est que dans la lignée un peu de ces chiffres-là, il y a une étude de COFAS qui a été publiée en avril qui a montré que près de 7% des tâches en France pouvaient être entièrement automatisables par les agents.
Je crois qu'il parlait même de 5 millions d'emplois menacés à assez court terme, hein, d'ici 2030.
Mais alors, moi, ce que j'ai un peu plus du mal à voir, c'est effectivement, il y a les gains de productivité, il faut savoir absolument les utiliser, parce que c'est ce qui a pu expliquer l'écart notamment de gains de productivité entre les États-Unis après la révolution numérique. Mais si notre point de comparaison, c'est la révolution numérique, moi j'ai l'impression qu'il y a eu quand même pas mal de créations, enfin de nouvelles formations, des métiers ont disparu, mais d'autres ont été remplacés, et généralement les métiers qui ont disparu étaient plutôt à faible valeur ajoutée, et qui ont pu permettre aussi l'éclosion de nouveaux services. Et j'ai du mal à voir pourquoi en fait les gains de productivité qui vont être associés vont automatiquement se répercuter en destruction d'emplois en fait net. Donc moi c'est un peu difficile, et tout va dépendre justement du gain de productivité qu'il crée. Moi ce qu'on lit aussi, c'est que certes il y a cet écart de productivité entre Europe et États-Unis, mais c'est que par rapport à ce qui était annoncé par rapport à l'ère du numérique avant que la bulle d'Internet explose, etc. Il y a eu des gains de productivité nets, mais ils n'ont pas été aussi élevés que ce que prévoyaient les économistes, les macroéconomistes, les
microéconomistes. Oui, puis on les voit pas toujours, hein. C'est le paradoxe de Solow, c'est que la technologie peut arriver sans qu'on voit forcément les gains de productivité. Olivier, et puis après.
Non, mais d'ailleurs, si on revient sur le numérique, ce qu'on voit, c'est que le numérique, ça a surtout créé de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouvelles activités. Et en fait, certes, il y a eu sans doute des gens qui ont perdu à ce moment-là leur emploi. Par exemple, on a plus de magasins de location vidéo. Est-ce que ça s'est traduit par des baisses nettes d'emplois? Non, parce qu'en fait, il y a eu d'autres services qui sont développés, et à la fin, tout le monde est gagnant. Le potentiel de l'IA, en fait, c'est justement, et des nouvelles technologies de manière générale, c'est d'étendre le panel de produits et de services disponibles, en fait. Oui. Ça va permettre de mieux mobiliser les ressources de l'économie, notamment les ressources en emploi, pour produire davantage de services, pour vendre plus globalement et pour rendre plus de gens utiles à l'économie.
Il y a un exemple intéressant en Chine, Mathieu, je trouve.
Oui, il y a un exemple intéressant.
Où on vient de réguler Pékin pousse à l'utilisation de l'IA et en même temps régule les licenciements.
Il y a eu deux décisions de tribunaux 2025 et 2026, notamment le tribunal de Hangzhou finalement a condamné le licenciement d'un salarié chinois qui avait été licencié sur un motif d'intelligence artificielle qui pouvait le remplacer. Et en fait, il y a eu deux décisions de justice là-bas en disant non, le progrès technologique lié à l'intelligence artificielle ne doit pas être invoqué pour remplacer un travail.
Étonnant. Ça se décision, moi, il pousse à l'utilisation de partout dans les entreprises.
Moi, je pense là-dessus, ce sujet de l'IA, c'est vraiment quelque chose qui personnellement m'euphorise totalement. Mais plus on avance, plus c'est totalement vertigineux. Et en fait, la puissance à venir potentielle de l'IA, va avoir un impact assez colossal. Il faut regarder ce que disent en ce moment les gourous de l'IA dans la Silicon Valley, Sam Altman et ses compères. Ils sont en train de, j'ai le sentiment que c'est un peu en urgence, ils sont en train de jouer une petite musique autour d'un contrat social à redéfinir autour de l'IA, parce qu'ils ont bien compris justement qu'il va y avoir pour le coup un impact. Potentiellement, on va rentrer dans une ère où la machine sera plus puissante que l'homme dans beaucoup de secteurs,
oui.
Que ça touchera aussi l'école blanche, que ça
d'abord et avant tout, ouais.
Que c'est pas de la science-fiction, que c'est demain, et donc c'est pour ça qu'on entend cette petite musique sur où on sent qu'ils ont besoin de rassurer tout le monde en disant bon bah écoutez d'accord, on va gagner énormément en gains de productivité, la machine elle va vous remplacer, regardons comment fiscaliser cette machine pour pouvoir financer nos loisirs, c'est un sujet parmi beaucoup d'autres, ce revenu universel etc. qui a été chiffré au dollar près, hein. Il a fait une étude d'impact, Sam Altman en Californie,
oui.
Il est imaginé pour chaque citoyen californien un revenu universel qui est un revenu universel de la naissance jusqu'à sa mort qui serait de je crois de 12 000 et quelques dollars etc. qui serait financé uniquement par la fiscalisation des robots et de l'IA et vous regardez et dernière chose c'est vraiment un sujet qui devient ultra politique aux États-Unis quand vous regardez Steve Bannon qui était l'éminence grise de Donald Trump à l'origine d'ailleurs de la prise du Capitole. Il vient de signer une lettre avec une soixantaine de personnalités aux États-Unis qui a l'air d'être une nouvelle doctrine insufflée par Steve Bannon en vue des midterms et de la prochaine présidentielle. Et l'idée, c'est de changer America First par Human First. Et donc en fait, cette doctrine...
La poussée humaniste de Steve Bannon.
Oui.
On l'avait pas vu.
Oui. Oui. Et donc en fait, Steve Bannon est en train de prendre ce courant techno-négatif, sachant que les techno-optimistes sont une partie de l'électorat qui a porté Donald Trump au pouvoir. Et donc lui, il est en train de dire attention, ça va toucher aussi l'école blanche, ça va toucher tout le monde. Et donc celui qui a fait le programme de Donald Trump pour parler à tout l'électorat de la Rose Belt, etc., est en train d'embarquer avec lui sur un fond toujours populiste, etc., aussi l'école blanc, sur le thème United First, sur l'IA.
Donc, moi, je trouve que c'est un discours qui monte aussi hein, de ce côté-ci de l'Atlantique, effectivement, chez des... Jean-Marie Messier, encore dimanche, dans la tribune dimanche, me semble-t-il, évoque avec quelques angoisses cette montée de l'IA. Est-ce qu'il faut qu'on pose un cadre, vous pensez, qu'est-ce que vous pensez de l'exemple chinois? Moi, je ne vois pas comment on va.
J'ai l'impression que ça
va limiter la productivité et l'amélioration de l'efficacité économique des entreprises. Ça me paraît compliqué quand même.
Non, je pense qu'il faudrait aller voir les raisons spécifiques, mais en Chine aussi, il y a de la politique.
Ah bien sûr, c'est du dirigisme. Vous appliquez l'IA, mais vous gardez les salariés.
Nous, il se trouve qu'on a un droit du travail qui est toujours encore largement étriqué, et dont d'ailleurs les réformes récentes, et là je vais citer une étude de la Banque de France sortie la semaine dernière, a permis de donner un petit peu d'air. Mais on est loin, en fait, on reste un marché du travail qui est très réglementé, très régulé. Il faut quand même se dire que les quelques réformes que parfois on a souvent oublié de l'ère Macron, c'est-à-dire les ordonnances, la formation professionnelle, la réforme des allocations au chômage, si on croit l'estimation de la Banque de France, ça aurait réduit le chômage structurel, c'est-à-dire hors effet du cycle, lors de 1,1 point. C'est énorme, en fait.
Oui.
Et donc, ça veut dire qu'en fait, nous, on aurait peut-être... Mais il est encore élevé,
le
chômage structurel. Il est toujours autour... il est supérieur à 7%. Donc, on voudrait peut-être le baisser davantage. On voudrait peut-être plutôt faciliter la réallocation des ressources de travail dans l'économie plutôt que de la rebloquer. Peut-être qu'il ne faut pas... On n'est pas non plus dans le même marché du travail qu'en Chine ou aux États-Unis.
Oui.
Après, pour répondre sur Sam Altman et puis Bannon, etc., je pense qu'il y a, il y a deux sujets qui sont un sujet américo-américain. Eux, ils ont de la valeur ajoutée créée massivement par des boîtes d'IA. On n'en est pas là. Donc ces sujets-là, en fait, au fond, comment on anime un marché du travail américain et comment on fait vivre des Américains, en fait, OpenAI ou autres, ils ne vont pas nous faire des transferts fiscaux vers nous. Donc nous, on a un vrai sujet de rattrapage de la productivité. Après, si on se plonge dans le contexte américain, bon, on voit bien, par ailleurs, alors je vais être un petit peu cynique, mais on voit bien la crainte du côté de Sam Altman ou d'autres de voir que l'IA soit déflationniste comme le numérique l'a été dans le passé. Parce qu'à la fin, la façon dont le numérique a traditionnellement rendu de la richesse à l'économie, ça n'a pas été par du revenu universel.
En baissant les prix.
Ça a été en baissant les prix. Sauf qu'on voit bien qu'ils ont un enjeu de garder des prix relativement élevés pour solvabiliser les investissements. Donc, d'où cette réflexion, oui, sans doute, sur une sorte de Fordisme 2.0 pour redistribuer la richesse créée et éviter d'avoir des prix trop bas et des sujets de, comment dire, de valorisation et de financement complexes.
Le chef économiste d'OpenAI nous explique dans l'interview croisée là, des Échos, il dit l'usage de ChatGPT au travail est une chose, Victor Lequi-Laurier, mais lorsque l'on aura des IA agentiques, l'impact sur l'entreprise sera d'une autre nature. Est-ce que c'est pas ça le game changer au final? C'est ces fameux agents qui viennent bosser pour vous. On voit ce que peut faire Claude d'Anthropique aujourd'hui. Est-ce que c'est pas ça qui va tout changer?
Ce qui va tout changer, ouais, c'est à partir de quel moment les entreprises seront en mesure d'absorber en fait cette technologie. C'est ce qui fait la grosse différence, notamment en France, qu'on a pas mal de retard sur le numérique, notamment sur par exemple rien que des entreprises qui ont des sites. Enfin, ça a beaucoup augmenté, mais on voit qu'on a quand même du retard et ça pose des questions aussi en termes d'investissement dans les infrastructures numériques tout court, que ça soit la 5G, etc. Si on a vraiment une crainte sur effectivement que ça révolutionne notre mode organisationnel au niveau de la société, au niveau du travail, bah si c'est ça la crainte, ça veut dire que la meilleure réponse c'est tout ce qui est formation, et je parle formation au sens large, que ce soit oui, au niveau de l'éducation, oui, pour justement faciliter ce que les nouvelles cohortes de personnes qui vont entrer sur le marché du travail puissent être suffisamment autonomes pour se débrouiller sans l'IA, mais aussi ça ait une maîtrise de l'IA qui leur permettrait...
Oui, ce n'est vraiment pas le cas aujourd'hui, hein, effectivement.
Et que si on a peur aussi que ça soit sur ceux qui sont déjà en emploi, bah que c'est les questions de formation continue. Et on revient un petit peu sur les sujets qu'on, du tout début, c'est aussi ce qui marche pour préserver le salaire et augmenter le salaire brut et net dans certains pays, c'est que ce système de formation continue. Mais ça, c'est un vrai, à nouveau, une question de priorité, et que si en France on compte toujours s'appuyer sur l'administration publique pour accompagner ça, il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience et il faut avoir un peu plus de marge qu'on en a actuellement. Mais effectivement, il faut pas, enfin, le train, il faut le prendre.
Ouais, et mais je pense que au-delà du débat éthique et social, là le maître mot c'est investir. Il faut il faut investir. Juste un mot, c'est que vous avez Meta, Microsoft, Google et Amazon à L4, cette année, elles auront investi autant que ce qu'on a investi dans l'économie française.
Bon, ben voilà, c'est une autre échelle, hein, et ce sera le mot de la fin. Merci tous les trois pour cette émission disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business. Tout de suite, c'est La France à tout pour réussir, animé par Jérôme Tichy. Quant à nous, on se retrouve demain, même en même endroit, 9h30 en direct sur BFM Business. Très bonne journée à tous.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.